Et j'ai bien dit 8 heures. Le journal, Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. Bain de sang en Birmanie hier. Des tirs à nouveau dans les rues de Rangoon ce matin. La junte veut faire régner la terreur. Les pro-démocraties cherchent désormais à s'armer l'ombre de la guerre civile. La courbe vertigineuse du Covid, la troisième vague sera-t-elle la pire? Les réanimateurs et les médecins des hôpitaux en région parisienne n'ont, disent-ils, jamais vu ça. Il faut tenir encore, les vaccins arrivent, promet Emmanuel Macron. En attendant, dans les écoles des 19 départements en restrictions renforcées, la classe qui ferme avec un seul cas de Covid, ça commence dès demain. Et puis on verra aussi pourquoi c'est si compliqué de libérer le cargo qui bloque le canal de Suez depuis 5 jours. Comment les Bleus se mettent la pression avant le match au Kazakhstan cet après-midi, qualification pour le mondial de foot. Et enfin, on fera un tour en Aston Martin pour le retour de la Formule 1 dans Esprit Sport.
Et puis à 8h20, question autour de la liberté d'expression à l'école. On va en parler avec le sociologue François Héran, professeur au Collège de France. Il vient de publier aux éditions de la Découverte une lettre aux professeurs sur la liberté d'expression.
France Inter. La journée la plus sanglante depuis le coup d'État en Birmanie il y a presque 2 mois. Selon les ONG, plus d'une centaine de manifestants pro-démocratie ont été tués par la junte hier, des enfants parmi les victimes. L'armée au pouvoir qui continue de tirer à bout portant ce matin. Sur place à Rangoon, correspondance Juliette Verlin.
Il est difficile de connaître le bilan exact de la répression d'hier à cause d'une pratique répandue chez les militaires. On les voit emporter les corps des blessés et des morts afin de réduire le bilan et de cacher les dégâts faits par leurs armes. De nombreuses familles en sont réduites à cacher le corps de leurs proches afin de pouvoir organiser des funérailles. Les Birmans avaient appelé à une journée de rassemblement hier lors de cette journée symbolique pour l'armée. Tout le monde s'attendait donc à une réponse forte de la part des autorités. Une fillette d'un an a reçu une balle en caoutchouc dans l'œil et plusieurs autres, dont un enfant de 5 ans, ont été tués près de leur domicile. Les réseaux sociaux regorgeaient de vidéos de militaires tirant aléatoirement dans les rues ou dans le dos de simples passants. Cela fait écho à l'annonce faite la veille sur la chaîne de télévision gouvernementale qui annonçait que l'armée tirerait dans le dos et dans la tête des opposants. Aujourd'hui à Rangoon, des tirs sont rapportés dans plusieurs quartiers et les services médicaux d'urgence continuent à manquer. Pour les manifestants, la journée d'hier n'est qu'une preuve supplémentaire que seule une résistance armée aux militaires leur permettra de se défendre. Alors cocktails Molotov, lance-pierres et boucliers, de plus en plus de ces groupes armés cherchent à ajouter des armes à balles réelles. Rangoon, Juliette Verlin, France Inter.
La communauté internationale horrifiée, les militaires parlent aux militaires ce matin. Les chefs d'état-major de 12 pays occidentaux, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne ou encore l'Allemagne, exhortent l'armée birmane à baisser les armes.
L'actualité en France avec le nouveau protocole anti-Covid dans les écoles des 19 départements en restrictions renforcées. Eh bien, ce nouveau protocole commencera dès demain.
Des écoles pas fermées officiellement, car dans les faits, avec ces nouvelles consignes, à terme, beaucoup d'entre elles le seront. Un seul cas, et c'est toute la classe qui ferme. Et oui, dès demain, lundi donc. Clémence Gourdon.
Jean-Michel Blanquer a annoncé qu'une classe serait fermée dès le premier cas positif, mais il manquait une information à partir de quand. France Bleu Paris s'est procuré la réponse. Chaque école a pour ordre de ne pas ouvrir une classe lundi si un cas de coronavirus a été détecté dans le week-end, que ce soit du côté des élèves ou des enseignants. Les parents d'élèves parisiens ont eu l'information dans un court SMS de la mairie de Paris qui renvoie à plus de précisions auprès de la direction de leur école. Mais la mesure concerne bien les 19 départements concernés par le reconfinement régional et tous les niveaux scolaires, de la maternelle au lycée, avec de nouveau la possibilité pour les parents de bénéficier d'arrêts de travail pour garder leurs enfants.
Les écoles, avec un taux d'incidence en hausse de 30% chez les élèves, parfois plus, comme ici au lycée Eugène Delacroix à Drancy en Seine-Saint-Denis. Le personnel a même écrit à Emmanuel Macron et au ministre de l'Éducation nationale pour demander la fermeture de l'établissement. En un an, dans ce lycée, une vingtaine de jeunes ont perdu leur père ou leur mère, mort du Covid. Cette troisième vague sera-t-elle pire que toutes les autres? Le variant britannique en tout cas est ravageur. Près de 4800 patients en réanimation hier. Plus de 630 cas pour 100 000 habitants en région parisienne, en hausse de 17%. Tribune ce matin dans le journal du dimanche d'une quarantaine de directeurs médicaux de la PHP contraints bientôt de faire un tri et ça concernera aussi bien les patients Covid que non Covid. Nous n'avons jamais, disent-ils encore, connu une situation pareille. Nous ne pouvons rester silencieux sans trahir le serment d'Hippocrate. Tenir, garder espoir, les les vaccins arrivent. Le message d'Emmanuel Macron dans le JDD ce matin, 3 millions de doses Pfizer et Moderna livrées la semaine prochaine et bientôt aussi la fabrication des vaccins sur notre sol. Le Pfizer d'abord dans l'Eure-et-Loire, suivront le Moderna en Indre-et-Loire et le CureVac dans les Pyrénées-Atlantiques. Dans quelques semaines, nous aurons rattrapé notre retard, assure le chef de l'État qui maintient ses objectifs. Tous les Français qui le souhaitent seront vaccinés avant la fin de l'été. En attendant, la campagne se poursuit 7 jours sur 7. À part à Abbeville, dans la Somme et à Denain, dans le Nord, où faute de doses, les centres ont dû fermer hier. Partout ailleurs, les vaccinodromes poussent comme des champignons et se transforment en fourmilières. Comme ici à Toulouse, reportage Manon Klein.
Au tout début de la file, pour commencer, un peu de gel hydroalcoolique.
Je vous invite à frictionner vos mains.
Je vous laisse avancer.
Merci.
Ça va vite, juste derrière. Jean, pas question pour lui de rater cette occasion.
Depuis le 2 février, j'ai téléphoné X fois, au moins 100 fois pour prendre un rendez-vous. Impossible. On s'inquiète parce qu'en plus, moi j'ai bientôt 84 ans et mon épouse a 82. On épouse un peu la pétoche, comme on dit chez nous. Mais c'est pour notre bien, c'est avec plaisir qu'on est venu.
Il n'y aura jamais eu autant de rendez-vous en un seul week-end dans un centre à Toulouse. C'est bien, dit le maire Jean-Luc Moudin, qui reste toutefois vigilant.
Je formule deux souhaits. C'est que, bien évidemment, la montée en puissance qu'on nous annonce des doses soit effectivement au rendez-vous. Et puis le deuxième souhait, c'est que nous ayons aussi un système de réservation qui crée moins de frustration qu'aujourd'hui.
Le maire de Toulouse plaide également pour des nouveaux centres de vaccination plus en périphérie.
Reportage France Bleu Occitanie, Manon Klein. L'accélération de la vaccination passe aussi par les pharmaciens qui vont recevoir des doses de Pfizer avec la nouvelle autorisation de congeler les flacons non plus à moins 80 mais entre moins 25 et moins 15 degrés. Les frigos des pharmacies sont adaptés, de quoi répondre aux 1,5 million de personnes inscrites sur leur liste d'attente. Par ailleurs, tous les plus de 75 ans non vaccinés vont être appelés dans les tout prochains jours. Plus de 3 millions de Français, isolés ou précaires, restés à l'écart, contactés par la caisse d'assurance maladie avec en plus la création d'un numéro de téléphone unique pour prendre rendez-vous. Enfin, après l'Allemagne, l'Espagne, à son tour, sort le bouclier. Pour la première fois, Madrid va exiger des Français un test PCR négatif à sa frontière à partir de mardi prochain. Seuls exemptés, les travailleurs transfrontaliers.
Voilà 5 jours que le cargo géant Lever Given est bloqué en travers du canal de Suez en Égypte.
Inédit, chaotique et un peu surréaliste aussi. Ce sont des dizaines de navires coincés aux deux extrémités du canal. Embouteillage monstre aussi pour tous ceux qui contournent par le cap de Bonne Espérance. Le canal de Suez, c'est 10% du trafic maritime mondial, des milliards de dollars de marchandises chaque jour, des milliers de barils de pétrole aussi. Un véritable pont entre l'Occident et l'Asie coupé aujourd'hui. Alors remettre à flot ce porte-conteneur qui bloque tout, 400 mètres de long, plus de 200 000 tonnes, ce n'est pas une mince affaire, explique Vincent Groiselot, rédacteur en chef du site Mer et Marine.
Des échouements, on en a déjà eu. De cette ampleur-là, non, c'est inédit dans le canal de Suez, en tout cas avec un tel navire. Il faut faire très attention, surtout dans des eaux resserrées comme celle-ci, un canal très étroit, donc la moindre fausse manœuvre, le moindre déport du navire par le vent peut avoir rapidement des incidences importantes. Alors oui, effectivement, il pourrait y avoir une erreur humaine. Est-ce que c'est un défaut de veille? Est-ce que quelqu'un en passerelle n'a pas vu le bateau se déporter suffisamment vite? Est-ce que à une erreur aussi humaine a pu se conjuguer un problème technique? C'est possible aussi, et ça, il est beaucoup trop tôt pour répondre. Voilà, encore une fois, on est face à un bateau qui est l'un des plus grands du monde, qui pèse plus de 200 000 tonnes, donc il faut faire quand même très attention à la manière dont on le sort. Évidemment, il ne faut pas que la solution soit pire que les mots, et qu'en fait, à l'arrivée, on se retrouve avec un bateau qui soit en état de fragilité tel que là, on devrait le vider complètement, et là, ça prendrait des semaines.
Vincent Groiselot de Mer et Marine, il faudra plusieurs jours, voire des semaines pour libérer le canal, assure de son côté la société mandatée pour les travaux. En ce jour de fête catholique, dimanche, des rameaux, explosion ce matin dans une église de Makassar en Indonésie. Une bombe selon les autorités, des victimes c'est sûr, mais pas encore de bilan officiel. Et puis en bref, encore le groupe Total menacé par les djihadistes au Mozambique. Son méga projet gazier près de la ville de Palma, une ville tombée aux mains des terroristes hier, a été à nouveau suspendu. Un chantier de 17 milliards d'euros qui venait tout juste de reprendre. Allez, on vous emmène cette fois au cinéma, comme avant, ou presque. Depuis votre salon, séance virtuelle proposée depuis octobre à heure fixe sur le site de la 25e heure, en partenariat avec des cinés d'art et d'essai. Ce dimanche, on vous propose le film d'Agnès Varda, Cléo de 5 à 7. et en bonus, une visite simultanée dans le quartier de la cinéaste. Plus vrai que nature, Corinne Pellissier.
Cela fait 9 ans que Juliette Dubois a transformé sa passion pour le cinéma en visite guidée partout dans la ville. Des balades autour de François Truffaut, Amélie Poulain, Georges Méliès ou ici Agnès Varda.
Ce regard-là de cinéaste sur Paris, il est très intime. On se replonge dans l'histoire d'un quartier. C'est à la fois évoqué son univers cinématographique, mais aussi son univers personnel.
Privée de visite de groupe pour cause de Covid, c'est avec son compagnon Alexandre Grondin qu'elle propose désormais en visioconférence ses visites dans le Paris du cinéma.
Et elle doit pouvoir amorcer un petit déplacement.
Une expérience interactive qui nous emmène cette fois-ci dans le quartier de Montparnasse.
Donc Agnès Varda, elle avait le 14e arrondissement dans la peau, elle a vécu près de 70 ans dans ce quartier.
La connexion se fait par le biais d'une tablette à l'issue de la projection du film. Une visite à ciel ouvert sur les traces de l'héroïne.
Effectivement, il sera question de Cléo de 5 à 7 pour la deuxième partie de la visite.
Et des lieux de tournage emblématiques des films d'Agnès Varda.
Mais on commence rue Daguerre avec les quelques films qu'elle a pu y tourner. Daguerre et Otis, par exemple, en 1975. La boulangerie est toujours là, à l'angle.
Les rues Daguerre, Montparnasse, D'Enfer, Vavin, pour un voyage original et rempli d'anecdotes, sans quitter son living room.
Et dans les pas d'Agnès Varda, pour ça, c'est rendez-vous à 17h, donc tout à l'heure, sur le site de la 25e heure, prix de la séance, 7 euros.
Et après la 25e heure, l'heure des sports.
Avec d'abord du foot cet après-midi, 15h, les Bleus sont au Kazakhstan, deuxième match de qualification pour le Mondial 2022. 4 jours après l'échec, un partout face à l'Ukraine, le faux pas est interdit. Adrien Rabiot, le milieu de terrain, met la pression.
C'est clair que dans une phase de groupe, quand on rate l'entrée en lice ou un des matchs, il y en a derrière pour se rattraper. Donc on sait que c'est possible. Là, on est très attendu, on le sait aussi. Ça devient des matchs pas très évidents, assez compliqués. Ça peut être parfois un peu brouillon, mais c'est des matchs qu'il faut jouer, il faut passer par là. Voilà, on sait que ça peut se débloquer tard dans le match ou sur un coup de pied arrêté. C'est le football aussi. On peut pas toujours bien jouer de la première à la 90e minute et marquer 4 buts. Avec ces équipes-là, il va falloir se le mettre en tête. Au Kazakhstan et en Bosnie, ce sera la même chose. Donc ces matchs-là sont surtout mentaux plus que physiques, je pense.
Adrien Rabiot avec Jean-Pierre Blimeau. Et puis c'était Serbie-Portugal hier avec la scène du match. Cristiano Ronaldo, foudrage, qui quitte la pelouse après un but refusé. Énorme colère, gros carton jaune aussi. Score final 2-2. On va avaler du bitume dans Esprit Sport ce matin. Bonjour Emma Sarango.
Bonjour.
Après 3 mois et demi de pause, la Formule 1 fait son retour. Grand Prix de Bahreïn cet après-midi. Alors bien sûr, c'est un sport de gaz à échappement et d'argent. Mais les circuits sont aussi chargés d'histoire, avec cette année le retour d'une marque emblématique, pour ne pas dire universelle.
Celle qui incarne le mieux sans doute l'élégance, le glamour et la finesse. Aston Martin, la marque ailée, à jamais associée au plus célèbre des espions britanniques, James Bond, la DB5 de Sean Connery dans Goldfinger. D'ailleurs, la nouvelle monoplace de l'écurie a été inaugurée il y a quelques semaines par 007 en personne, Daniel Craig, heureux d'imaginer son plus fidèle compagnon dans le paddock.
Un énorme bravo à tous chez Aston Martin. C'est incroyable pour moi et je suis sûr pour tous les fans de Formule 1 de voir l'iconique Aston Martin faire son retour en compétition. Bonne chance à vous, allez le chercher et rendez-vous sur la grille.
Daniel Craig, fier donc de présenter cette monoplace qui rétablit la couleur verte sur les circuits, ce vert très british, emblématique d'Aston Martin et des équipes britanniques jadis.
Et si l'on parle de retour, Emma, c'est aussi parce qu'Aston Martin s'est déjà essayé sur les pistes de Formule 1.
Oui, mais très brièvement, quelques courses en 1959 et 1960, sans grand succès. La marque se tourne donc vers les courses d'endurance et ce n'est qu'en tant que sponsor de Red Bull qu'Aston Martin était encore présent en F1 ces dernières années. Oui, mais voilà, il y a un an, l'entreprise britannique connaît une mauvaise passe et elle est acheté par un certain Lawrence Stroll, récent propriétaire de l'écurie Racing Point. Le milliardaire canadien change donc la stratégie de la marque ailée, rebaptise son écurie du nom d'Aston Martin, avec l'objectif d'en faire tout simplement un rival de Ferrari. Nos ambitions sont sans limite, assume-t-il. La preuve, il recrute chez l'ennemi un quadruple champion du monde pour conduire sa monoplace, l'Allemand Sébastien Vettel, qui sera associé pour les 23 Grands Prix de la saison au fils du patron, Lance Stroll, qui a fait ses preuves sur le circuit. Vettel, qui avait pris l'habitude de donner un petit surnom à toutes ses voitures chez Ferrari, en a trouvé un très charmant pour la nouvelle Aston Martin, Honey Rider, du nom de la première James Bond girl dans Doctor No.
Ouais, Ouais, bah, vu comme ça, on a envie de regarder de la F1 tout d'un coup. Merci, Emma Sarango. Vous qui nous parliez de patinage artistique, tout autre chose, ici même, hier matin, eh bien, voici les résultats. L'Américain Chen, sacré champion du monde pour la 3e fois d'affilée. Son rival, le Japonais Anyu, termine seulement 3e. Et puis, catégorie danse sur glace, sans les Français Papadakis et Cizeron, eh bien, ce sont les Russes qui brillent, Sinitsina et Katsalapov. Je sais pas si j'ai très bien prononcé.
Je sais pas, on va le prendre comme ça, en tout cas. Merci, Hélène Roussel. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Avec du beau en général, Jean-Pierre Rameau.
Une puissante cellule anticyclonique se positionne au-dessus de notre pays, permettant au soleil de s'exprimer pleinement aujourd'hui, excepté vers le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, où un voile épais de nuages d'altitude viendra freiner l'ardeur du soleil. À noter la présence de nuages bas vers la Côte d'Azur et la Corse en ce début de matinée, évoluant assez rapidement vers un ciel variable. Côté température, les maximales en hausse évolueront entre 14 et 23 degrés du nord au sud, avec 14 à Brest et Lille, 16 à Nancy et Dijon, comptez sur un agréable 17 degrés à Paris, prévoyez 18 à Lyon et Marseille, 21 à Bordeaux et Toulouse, 22 à Auch, on ira jusqu'à 23 degrés à Biarritz. Et puis comme le dit la chanson, prévoyez un lundi au soleil avec des températures affichant des valeurs bien supérieures aux moyennes de saison et cette météo très agréable va durer jusqu'à mercredi.
Jean-Pierre Rameau, Météo France.